Média. Média.
Podcast.
Bienvenue à toutes et à tous. Leadership féminin, leadership masculin, l'éternel débat. Et puis ici, on en parlait véritablement avec une femme qui incarne pleinement l'idée de leadership dans l'absolu. Accompagner ses équipes, échouer avec ses équipes, comme elle dit tellement bien. Et puis, bien sûr, sans oublier, finalement aussi parler de toutes ces incertitudes. On y va pour les détails.
Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Ilham Saoudi, bonjour.
Bonjour, Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Ilham?
Merci beaucoup, ça va très bien. Merci, Lala Ertek.
Alors, Ilham, vous êtes une femme de l'innovation. Et aujourd'hui, l'innovation, c'est devenu presque un buzzword. Et on ne sait pas forcément ce qui se cache derrière. Alors, vous qui êtes justement ancrée dans ce mindset-là, comment vous définissez l'innovation?
Alors, personnellement, je voudrais juste clarifier un point.
Oui.
C'est que l'innovation, ça ne veut pas forcément dire du IT, de la digitalisation.
De la technologie.
L'innovation de la technologie. Donc, ça pourrait être justement l'innovation sur des process de tous les jours, sur des opérations de tous les jours chez une entreprise. Et c'est justement ça ce qu'il faut qu'on garde en tête. Le deuxième point, c'est que l'innovation doit avoir un objectif. Donc là, on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup d'automatisation, par exemple, ces derniers temps. Et personnellement, je pense que ça, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde, s'il n'y a pas un objectif derrière. Mmh. Par exemple, chez nous, l'innovation doit toujours être orientée bénéfice du client. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque innovation qu'on fait doit permettre d'améliorer la qualité de l'application du client, doit améliorer le temps d'exécution du projet du client ou le nombre de ressources allouées à justement son projet. Donc ça, c'est ce qu'on a comme moteur pour l'innovation.
Ok. Et merci beaucoup de préciser que finalement aujourd'hui l'innovation, ce n'est pas uniquement la technologie, l'IT, ce n'est pas uniquement ces outils-là, mais c'est aussi une façon, un mindset, une réflexion et orienter résultat, objectif aussi bien sûr, parce que justement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est devenu un buzzword et on a l'impression que tous les organismes, toutes les entreprises, tous les entrepreneurs doivent être en mode innovation, c'est-à-dire créer quelque chose de différent au point peut-être de se noyer et de perdre l'objectif initial.
Exact. Donc, justement, c'est que il faut toujours garder, surtout en tant qu'entrepreneur, c'est comme j'ai dit, l'innovation, c'est pas se perdre dans ces nouvelles technologies et sentir la pression qu'on doit être au top de la technologie, qu'on doit tous utiliser de l'IA, qu'on doit tous utiliser de l'automatisation. Mmh. L'innovation pourrait être un simple changement de process. Parce que dans tous les cas, on a besoin d'innovation. Ceux qui n'avancent pas, ils régressent.
Absolument.
Donc on a besoin toujours d'avoir quelque chose de nouveau, d'améliorer nos process, de ne pas accepter le statu quo si on peut optimiser ce qu'on est en train de faire. Et ça, je pense que c'est là le cœur de l'innovation. C'est comment changer, comment inscrire l'innovation comme un process d'amélioration continue dans nos entreprises, sans pour autant que ce soit une pression à justement digitaliser ou avoir de la nouvelle technologie, forcément. Mmh.
Alors, si on devait parler de vous en particulier, Lala Ilham, cet état d'esprit, vous l'avez développé comment? Vous êtes une ISCAïste, vous avez fait des études de finance, de comptabilité, vous êtes dans les chiffres. Comment le mindset a évolué pour adopter et incarner l'innovation au sens large?
Alors là, juste pour qu'on soit clair, je suis lauréate de l'ISCAE, option finance et audit. Donc généralement, ça veut dire ce côté de la formation, on est moins dans l'innovation. on est plutôt lié à la réglementation,
exactement.
À des formules Excel, à des calculatrices.
On ne sort pas de ça, on ne sort pas du cadre.
Exactement. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait, ça veut dire nommer comme un financier typique. Par contre, et je pense qu'on a toujours, et personnellement j'avais toujours ce point-là, c'est de ne pas accepter la situation telle qu'il est. C'est-à-dire, si je peux changer quelque chose, je vais la changer. Ça pourrait être, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, un process, une façon d'organiser, c'est-à-dire des opérations particulières. Et ça a été renforcé particulièrement quand j'ai intégré le groupe, parce que c'est un groupe quand même qui dépense jusqu'à 10% du chiffre d'affaires global dans la recherche et développement, avec plus que 1700 personnes qui travaillent que dans cette partie recherche et développement. Donc on a cette, ce côté innovation qui fait partie de l'ADN de notre société. Et ça, ça nous permet justement d'être toujours ce qu'on appelle continuous improvement process. C'est tous les jours, on pourrait justement penser à comment on pourrait faire les choses mieux que la veille.
Alors,
comment justement améliorer la vie de nos clients sur chantier.
Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le leadership moderne, c'est être à l'écoute. C'est être inscrit dans l'innovation. Et vous, Leïla Ilham, vous avez intégré un domaine habituellement masculin.
Exact. Alors, le VTP, je le dis toujours, je n'ai pas choisi le VTP, mais c'est le VTP qui m'a choisi.
Incroyable.
À la sortie d'école, j'ai intégré un premier job qui est dans l'immobilier. Ça veut dire au sein de cette société, j'étais amenée éventuellement à visiter les chantiers, à visiter les unités qu'on vendait à l'époque. Et c'est quelque chose qui, ça veut dire qui me plaisait d'être sur chantier, de lire les plans. Je pense que ça, c'est un côté technique dans mon cerveau qui donnait satisfaction. Et par la suite, donc, quand je voulais changer de mon premier job vers le deuxième, par la force des choses, j'ai intégré une société aussi qui travaillait dans le BTP, où je suis restée 6 ans en tant que responsable contrôle, gestion et finance. Et par la suite, c'était justement typiquement changement vers ILTI, qui est aussi une société qui travaille dans le BTP. C'est clair que, bon, c'est connu, c'est un secteur qui est connu pour être masculin.
Oui.
Mais je pense que ce n'est plus le cas. Si on voit le nombre de lauréats ingénieurs, notamment au génie civil, on va trouver que les femmes aujourd'hui représentent une bonne partie des lauréats et elles travaillent sur chantier comme n'importe quel autre ingénieur. Je suis sur le terrain très souvent et je suis amenée à plus que 50% à travailler avec des ingénieurs femmes.
Mmh. Alors, justement, beaucoup de lauréates ingénieurs femmes, vous-même sur le terrain, mais est-ce qu'on donne leur chance aux femmes de la même manière qu'on donne leur chance aux hommes en termes de promotion? C'est vrai que vous êtes aux commandes du cluster Morocco West Africa au sein de cette boîte, mais est-ce que vous faites partie des exceptions? Alors, ma question, elle surpasse en fait le périmètre du groupe auquel vous appartenez, mais pour aller vraiment de façon macro au niveau du secteur, en général, secteur des BTP, etc. Est-ce que finalement, c'est rare de trouver des femmes à la tête de grandes filières, carrément?
Certes, c'est assez rare. Donc, je pense que dans une décennie, peut-être on verra beaucoup plus de femmes, et j'espère en tout cas. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins avoir des femmes à la tête d'entreprises opérant dans ce secteur, et pas parce qu'elles ne sont pas compétentes. Je pense que c'est juste par la force des choses. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un métier qui se fait beaucoup sur le terrain. Ça veut dire parfois il y a des sociétés qui ont du mal à mettre des femmes dans des chantiers de bâtiments. Personnellement, je vois que cette tendance est en train de changer. Et dans tous les cas, avec le momentum de 2030, on n'aura pas le choix. On a besoin de compétences, on a besoin de profils. Donc, on va devoir mettre tout le monde sur le marché. Mais comme j'ai dit, je pense que ça, c'est quelque chose qui est en train de changer petit à petit.
Alors, encore une fois, abstraction faite de votre poste actuel, du groupe auquel vous appartenez, mais en tant que femme, dans un monde masculin, est-ce que, on dit souvent que les femmes souffrent beaucoup plus que les hommes du syndrome de l'imposteur, de penser qu'on est moins que les autres, de penser qu'on est moins compétente que les autres, et donc de mettre finalement les bouchées doubles pour trouver sa place, pour créer cette légitimité. Est-ce que, Lala Ilham, vous avez en quelque sorte souffert un petit peu de ça aussi ?
Forcément, surtout quand on commence. On a l'impression qu'on a quelque chose à prouver aux autres. Qu'on fait les choses, ça veut dire de manière beaucoup plus avancée, beaucoup plus méticuleuse. On attend qu'on soit parfait. Et on veut être parfait. Et avec le temps, je pense que ça soit homme ou femme, il n'y a personne qui s'attend qu'on soit parfait, sauf nous-mêmes.
Absolument.
Et ça, c'est quelque chose chez les femmes qui est beaucoup plus développé que chez les hommes. Ça veut dire cette image devant les autres, sa réputation, sa réussite. Donc, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et je pense que beaucoup, beaucoup de femmes, surtout qui intègrent le marché de travail maintenant, ils continuent à voir ça. Pas forcément dans le secteur du BTP, je pense dans plusieurs
secteurs. Absolument.
Exactement. Et on a cette volonté de réussir et du coup, on donne le maximum, on fait l'impossible pour justement réussir à avoir l'image de réussite.
De par votre parcours professionnel, les différentes équipes que vous avez eues à gérer, est-ce que vous avez senti ça aussi au sein des équipes, c'est-à-dire une confiance en soi chez les hommes et un besoin de se prouver chez les femmes?
Oui, généralement, on voit ça. Les femmes qui sont beaucoup plus, je dirais, silencieuses, qui travaillent dans le silence, qui ne parlent pas beaucoup de ce qu'ils font jusqu'au moment où ils livrent quelque chose, contrairement aux hommes où ils savent mettre en valeur ce qu'ils font comme travail.
C'est incroyable ça.
Et ça, c'est quelque chose que personnellement, je veille à ce que les femmes dans notre entreprise aient conscience de ça. Que je partage mon expérience avec elle pour éviter éventuellement des erreurs que j'ai faites sur mon parcours avoir le maximum, profiter le maximum d'un chemin de carrière qu'on pourrait avoir ensemble.
Alors justement, là, pendant que vous parlez, je me dis, est-ce que les hommes partagent leur vulnérabilité? C'est-à-dire que les femmes, j'ai l'impression qu'il y a cette générosité émotionnelle. Quand vous partagez justement les erreurs de parcours, ce que vous auriez pu mieux faire, j'imagine, en termes de confiance en soi, en termes de valorisation du travail, etc. C'est pour éviter que d'autres ne tombent dans le même piège, parce qu'on a l'impression que c'est commun, je ne veux pas généraliser en disant toutes les femmes, mais à la majorité, ça c'est les études aussi qui le montrent dans le domaine des RH. Les hommes sont, ils ouvrent pas ce côté-là émotionnel, celui des failles en fait humaines.
Je pense qu'on doit pas s'attendre à ce que un homme fait la même chose qu'une femme et également le contraire. C'est-à-dire on est différents, hommes et femmes. Les hommes seront plutôt dans le conseil. Les femmes seront dans le partage des expériences. Donc, je pense qu'on doit quand même juste comprendre comment chaque personnalité marche, hommes et femmes. Et d'ailleurs, quand je parle avec mes peers ou avec mes équipes, je leur dis toujours, quand on gère en tant que femme, il ne faut jamais essayer de gérer comme un homme aurait pu gérer.
Ouais.
Il faut gérer comme nous, on le sent. Parce que, justement, si on essaye d'imiter ce qu'un homme aurait pu faire dans une situation, on n'a pas les mêmes réflexes, on n'a pas les mêmes repères, on n'a pas les mêmes vulnérabilités. Et ça ne va pas marcher, ça va manquer d'authenticité dans notre style de management. Donc, un homme a son style, a ses réflexions, a sa façon dont son cerveau marche, a sa façon dont ses émotions marchent, et il faut l'accepter comme ça. Et une femme est différente. Ça ne veut pas dire bon ou mauvais, c'est juste qu'on est différent, et du coup on pourrait gérer de manière différente, en gardant toujours en tête une vision et que justement l'objectif est le même. Donc je pense que ça c'est un point auquel on doit faire tous attention.
Alors justement, j'adore ce que vous soulevez là, parce que pendant le modèle que les femmes dirigeantes ont eu pendant très longtemps, c'est un modèle masculin. C'est quand on arrive à, à ces postes-là, c'est ceux qui y sont et ceux qui les ont toujours eus, ce sont des hommes. Et donc le modèle de leadership était purement un modèle masculin. Avec tout ce que cela comporte en tant que posture, en tant que façon de faire, façon de parler, etc. Et beaucoup de femmes ont eu pas envie, mais elles n'avaient pas d'autre choix que d'imiter ce qui était présent. Et maintenant, il y a aussi ce débat, est-ce qu'il existe véritablement un leadership féminin versus un leadership masculin ? Vous en pensez quoi, Laila Ilham ?
Je ne dirais pas qu'il existe un leadership féminin versus un leadership masculin, mais je dirais que notre façon d'aborder les sujets est différente. Donc, notre style de management, comment on gère nos équipes, comment on est à l'écoute de nos équipes, comment on développe nos équipes. Donc, tous ces éléments-là, les deux le font. Maintenant, c'est notre façon de faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, les femmes vont être plutôt dans à l'écoute énormément, dans la bienveillance, dans le partage des expériences, tandis qu'un homme va être plutôt dans beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus dans le conseil, plus que le partage d'expérience. Donc pour moi, je dirais plus, il faut accepter que pour un même leadership, les gens peuvent l'attaquer de différentes perspectives.
Oui. En fait, en vous écoutant aussi, ce qui me vient en tête, c'est que la façon, l'incarnation du leadership, c'est le reflet de qui on est en tant que personne.
Exact.
C'est véritablement ça. C'est
on ne peut pas... Ouais. Exactement. Le leadership, ça vient... en fait, ça... Je dirais que ça se marie beaucoup avec l'authenticité.
Absolument.
On ne peut pas être un bon leader si on n'est pas authentique en termes de ce qu'on fait avec les autres.
Mmh. Donc, si on n'est pas une bonne personne aussi, au sens de la bonté,
exactement,
en fait.
Exactement. Ouais. On doit avoir des valeurs ancrées en nous qui nous font bouger et qui nous permettent justement d'être ce leader. Un manager, c'est un titre. Un leader, c'est un état d'esprit.
Absolument.
Donc, ce sont deux choses différentes. Et on ne peut pas jouer un rôle de leader. On peut jouer un rôle de manager, mais on ne peut pas jouer un rôle de leader. Ça se marie énormément avec l'authenticité et les valeurs qu'on incarne en tant que personne.
Alors, vous direz quoi à une jeune femme, justement, qui intègre ou qui prend une position importante aujourd'hui et qui ne sait pas quel style de leadership ? Parce qu'en plus de ça, avec toutes ces revues de développement professionnel, développement humain, etc., on parle de style de leadership, quel style adopter, etc., comme si, en fait, on allait piocher dans un catalogue. Donc, moi, si je vous disais quel style de leadership elle pourrait adopter, est-ce que c'est une question qui vous choque ?
Ça ne me choque pas. Je dirais plutôt, déjà, le conseil que je lui donnerais, c'est de croire en elle et qu'il est capable de faire tout ce qu'il a envie de faire. Il suffit de le vouloir. À partir de ce moment-là, il faut avancer sur les choses comment on le sent, mais également être accompagné. Quand je parle d'accompagner, c'est toujours penser à avoir des mentors qui doivent justement affiner notre style de management, de leadership, mais également peut-être nous ouvrir les yeux sur des choses que nous, on ne voit pas en nous-mêmes, ou on ne croit pas qu'on est capable de faire. Et je pense à partir de là, si on rajoute à ça l'authenticité de la personne et les valeurs qu'il incarne, je pense qu'il trouvera sur son chemin son propre style, sans pour autant avoir à choisir dans un catalogue ou à ressembler ou vouloir ressembler ou imiter quelqu'un.
Parce que je pense que la première crainte, c'est est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je vais me faire respecter ?
Claire, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on se pose, nous, femmes, beaucoup, énormément et tout le temps. Et il faut avoir de la crédibilité. Certes, bon, ça veut dire quand j'ai pris également la tête de l'organisation, ce sont des questions qui me hantaient un peu. Est-ce que ça serait possible ? Est-ce que je vais réussir ? Comment ça va se passer ? Mais je pense que le fait de montrer sa crédibilité vis-à-vis de l'équipe, de montrer une certaine bienveillance et résilience avec les équipes, ça change. Et ça améliore, ça vous donne de la crédibilité et ça améliore comment les gens vous voient en tant que leader. Parce que c'est humain, les gens ont tendance à comparer. Est-ce que c'est la même chose qu'avant ? Est-ce que c'est la même chose qu'un homme va faire ?
Oui.
Est-ce que c'est une femme, elle va être capable de prendre des décisions difficiles ? Mais je pense, petit à petit, il faut pas avoir beaucoup de pression sur soi, c'est qu'il faut tout régler d'un coup. Ça, c'est le piège dans lequel on tombe, nous, femmes. On veut tout régler, tout arranger d'un coup. Ça marche pas comme ça, surtout quand on gère de l'humain. Donc, il faut vraiment se contenter de petites réussites. Chaque jour, on a une réussite quelque part, on a une bonne chose qu'on a réalisée. Il faut y prendre goût et continuer dans cette lancée. Comment on pourrait être bienveillant avec les équipes, comment on va être, ça veut dire les accompagner quand ça ne va pas. Et surtout, comment on pourrait échouer avec les équipes. Est-ce que quand on échoue ou quelqu'un de notre équipe échoue, est-ce qu'on va être celui qui va râler parce que les gens ont échoué ?
Oui, hein.
Ou est-ce qu'on va essayer d'apprendre tous de ça, prendre la responsabilité, s'asseoir avec cette personne, analyser la situation et avancer tous ensemble ?
Absolument.
C'est quelque chose qui résonne beaucoup dans les équipes et qui fait partie forcément de la bienveillance, mais également du leadership. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un bureau climatisé, loin du terrain, et qu'on envoie nos équipes sur le terrain, et si ça ne marche pas, on va couper des têtes.
C'est ça. C'est justement, en fait, embrasser son équipe, la voir dans ses bras, exactement. Lala Ilham El Messaoudi, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Une voix vraiment qui résonne avec cette énergie de la force tranquille.
Merci beaucoup Yasmine, ravie d'être avec vous aujourd'hui.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.